France Inter.
Ah! Alors après, mangaka, on pense aux auteurs des différents mangas. Techniquement, les mangas, il y en a pour tous les goûts. Tous ceux qui aiment la romance, les mangas de romance, c'est pas ça qui manque. Tout ce qui est autour du fantastique, c'est pas ça qui manque.
Bonjour à toutes et à tous, je suis spécialement excité aujourd'hui à l'idée de passer une heure en votre compagnie, car ce numéro de Zoom Zoom Zen, c'est plus qu'une émission pour moi, une véritable revanche sur la vie. Combien de fois j'ai entendu ma mère me dire, alors que je regardais le Club Dorothée avec mon bol de Weetabix et mon pyjama chevalier du Zodiac, « Matoune, c'est pas en regardant Dragon Ball Z que tu vas trouver un job plus tard, à quoi ça pourra bien te servir de savoir que Trunks il est plus fort quand il fusionne avec Goten ?» Si j'avais su ce que l'avenir nous réservait, l'importance que prendraient les mangas dans notre société, j'aurais pu poser mon bol, sniffer un bon rail de Tang et lui dire droit dans les yeux « Bah tu vois maman, dans 30 ans, savoir que Trunks est plus fort quand il fusionne avec Goten, ça me permettra de faire une émission sur les mangas et crois-moi, ce jour-là, je le facturerai au prix fort à France Inter et en plus, avec tes impôts. Konnichiwa, maman. » Oui, aujourd'hui, zoom sur le phénomène manga à travers ce mot qu'on entend de plus en plus dans les médias, mangaka, qui désigne l'auteur d'un manga. Des auteurs de plus en plus courtisés et de plus en plus starisés, et pour cause, en France, plus d'une BD vendue sur deux est un manga. Les chiffres sont stratosphériques. Le manga One Piece, par exemple, est la série la plus vendue de tous les temps. 23 millions d'exemplaires rien qu'en France, 480 millions dans le monde. Alors, pourquoi un tel engouement? Qu'est-ce qui fait la singularité du manga? Mangaka est-il un métier d'avenir? Plus en tout cas que gérant de vidéoclub, qui était le projet que ma mère avait pour moi. Merci maman, Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Alors, vous l'aurez compris, ma connaissance des mangas se limitant à ceux que le Club Dorothée a bien voulu nous donner dans les années 90, il nous fallait évidemment inviter quelqu'un ayant une vision plus globale de l'univers du manga. Le voici. Bonjour Cédric De Pape.
Bonjour.
Ou plutôt Thunder Geek. C'est votre, vous avez un pseudo, hein?
Oui, tout à fait.
Comme Johnny Hallyday, mais là c'est Thunder Geek, c'est plus moderne. Vous êtes streamer, chroniqueur sur la chaîne YouTube Manga et Casque et la chaîne Twitch Le Cri du Moshi. C'est bon les Moshi, ça aussi, il faut dire à nos auditeurs ce que c'est pour ceux qui l'auraient jamais goûté.
C'est comme ça qu'on appelle en général les gâteaux faits à base de pâte de haricots rouges et de pâte de riz.
Cri du Moshi. Et vous êtes aussi cofondateur du podcast Cellulorama.
Tout à fait.
Alors, vous allez nous raconter ce qui vous a plu, vous, dans le manga, comment c'est devenu le centre de votre vie professionnelle. Le temps de vous présenter mon équipe. Clin d'œil malicieux d'ailleurs au dessin animé de notre enfance. Notre rédac chef les surnomme Jeanne et Serge. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Voilà Cédric, deux journalistes d'à peine 31 ans que j'ai embauchés précisément pour qu'ils m'épaulent sur des sujets comme le manga, des sujets de jeunes. Ça, c'était avant que je comprenne qu'ils n'étaient jeunes qu'en surface. Pour vous situer leur degré d'expertise aujourd'hui, quand je leur ai demandé quel était leur manga préféré, Quentin m'a répondu les Shadok et Manon, Capitaine Flamme. Sans vous dire qu'une fois de plus, je vais devoir tenir cette émission seul à bout de bras.
Oh là là.
Heureusement, Manon, si vous n'y connaissez rien en manga, en réseaux sociaux, en revanche, là, vous assurez.
Alors, je regardais quand même Sailor Moon, je tiens à le préciser. Je sais pas vraiment si c'est un manga, mais bon, moi, je le vois comme un manga. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un business qu'on pensait tous ringard, mais qui fait un comeback sur YouTube, le doublage. Et oui, la VF a peut-être encore de beaux jours devant elle, finalement. On en parle dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Cédric, son énergie, sa folie capillaire, sa niaque, sa taille, tout chez lui me rappelle mon idole, Sangoku. Même son innocence, sa bouleversante candeur, cette incapacité à décoder les messages subliminaux que lui envoient parfois certaines cougars en soirée.
Bon, maintenant, tu devrais avoir sous les yeux une espèce de trou.
Ah oui?
Mais c'est votre mère.
Tu vas prendre ton bâton magique et le mettre à l'intérieur.
Comme ça?
Oui. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à t'accrocher bien fort à ton bâton magique.
Je suis assez ému d'entendre.
Il va falloir que tu t'accroches à ton bâton magique, mon petit vieux. Je viens de citer ma mère. Alors qu'on écoutait évidemment un extrait de Dragon Ball. Les doubleurs s'amusaient bien, visiblement, à l'époque.
Quentin est tout rouge.
Quentin, vous êtes Sangoku, en plus vicieux quand même. Et comme lui, vous partez à la rencontre des gens avec, en guise de bâton magique, votre micro France Inter. Alors dites-nous, est-ce que la folie manga est palpable dans la rue?
Alors, j'ai un peu triché aujourd'hui parce que je me suis rendu dans un.
Ça vous ressemble tellement.
Juste aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Je suis allé dans un manga café.
Ah oui.
19 000 mangas au mur, des canapés confort pour découvrir des œuvres aussi diverses que surprenantes. On part pour un micro manga trottoir café dans la prochaine demi-heure. Juste essayez de moi. Est-ce que je peux essayer un truc?
Oui.
Kamiya.
Voilà. Oh la vache. Oh, là là là, oh mon Dieu, Quentin, je pensais que vous pouvez pas faire pire que la réflexion sur ma mère, mais vous avez fait un kamehameha avec la voix de Zaza Napoli dans La Cage aux Folles. Vers 16h30, comme on n'est quand même pas faire un quiz sur les Shadocks, on fera un quiz sur les mangas, mais promis, facile. En fin d'émission, Yann Marguet, un autre enfant perdu de la génération sacrifiée, pas de pitié pour les croissants, nous rejoindra pour évoquer quelques souvenirs liés au manga. Mais je sais pas si on a tous cette même culture. Cédric Depape, est-ce que comme moi, vous avez eu vos premiers émois en regardant Nicky Larson et Cat Size dans le Club Dorothée?
Comme je le disais un petit peu en antenne, oui, forcément, on découvre beaucoup cette culture-là. On ne sait pas trop ce que c'est, ces dessins animés qui viennent d'Asie quand on est petit. Moi, je suis né en 89, donc j'ai connu la fin du Club Dorothée.
J'ai connu
aussi le début de l'ère, tout ce qui était Pokémon, Digimon et compagnie. Donc, j'ai vu un peu cette transition arriver. Déjà, la première chose qu'il faut, je pense, vraiment rappeler, c'est qu'un manga, c'est une bande dessinée. Et un dessin animé, c'est un animé, en fait. Et que souvent, les gens confondent les deux ou font un abus de langage, ce qui est compréhensible quand
mais souvent pas... quand une BD, donc un manga, a du succès, elle devient tout de suite un animé.
Ah, tout à fait, oui bien sûr, c'est intrinsèque dans les deux, dans ce genre de choses, mais globalement un manga ça reste une bande dessinée, c'est vraiment le concept même à ce niveau là.
Cédric, grâce à vous, on va quitter les rivages poussiéreux du Club Dorothée pour découvrir toute la richesse des mangas d'aujourd'hui. Mais d'abord, justement, la richesse, c'est son obsession plus que les mangas d'ailleurs. Oui. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Chaque après-midi avec vous, on remonte aux origines de notre mot du jour. Et aujourd'hui, même si j'ai réussi l'exploit de l'oublier dès le sommaire, notre mot du jour, c'est pas manga, c'est mangaka. Alors les mangaka, d'où ça sort?
Le tout premier s'appelle Rakuten Kitazawa. C'est lui qui, en 1902, dessine le tout premier manga. C'est lui qui veut se définir comme un mangaka. Le nom de ce manga, Cédric, c'est à vous.
Tagosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu.
4 cases par page et des textes dactylographiés. Si le manga va lentement se diffuser dans la société japonaise, il faudra attendre les années 50 avant qu'il explose. La demande augmente, le rythme des publications s'accélère et cette montée en puissance, on la doit à un homme, Osamu Tezuka. Ce dessinateur renouvelle le genre, apporte un nouveau style plus moderne et ça cartonne, comme dirait une certaine Manon M. Son travail le plus connu, c'est ça.
Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot.
Le plus connu, en tout cas en France, Astro Boy, ça c'était le générique du dessin animé sorti en 1980. Dans la lignée de Tezuka, de nombreux dessinateurs se mettent au manga.
Mais Cyril, vous nous parlez là du début du XXe siècle, mais on pourrait remonter beaucoup plus loin.
Oui, le manga a des ancêtres, on les appelle les emaki ou les emakimono. Ce sont des rouleaux peints et pour lire l'histoire, tout simple, on déroule le rouleau. Ces emaki remontent, eux, au 8e siècle. Entre eux et le premier mangaka de l'ère moderne dont je vous parlais, Rakuten Kitazawa, le manga va suivre plusieurs évolutions et même plusieurs transformations. On va en parler durant une heure.
Merci beaucoup Cyril. Alors, Cédric Depape, on vient de parler d'Osamu Tezuka, on lui prête ses propos. Écoutez bien, c'est long. Le manga est sentiment, le manga est résistance, le manga est bizarre, le manga est pathos, le manga est destruction, le manga est arrogance, le manga est amour, le manga est kitsch, le manga est puissance. Ça fait beaucoup de qualificatifs pour un seul mot. Vous êtes d'accord avec cette définition? C'est tout ça le manga?
Oui, je pense. Globalement, oui. On peut. Comme d'habitude, je trouve que Tezuka avait souvent de bonnes formules à ce niveau-là. Il avait un sens du storytelling. Il aimait bien se mettre en scène lui-même. C'était un médecin, entre autres. Il a fait des études de médecine, il avait beau être auteur de manga, il aimait à ce qu'on continue à l'appeler docteur, par exemple. Enfin, il avait tout un effet de cérémonial autour de cette personne, et il a raison, le manga, on en retient souvent l'idée que c'est... Quand on était à l'époque du Club Dorothée, on avait souvent l'idée que c'était beaucoup de bagarres, de violence, sexe...
Pas du tout, pas spécifiquement.
Et c'est quelque chose de très spécifique, et c'est vraiment voir tout par le petit bout de la lorgnette, en fait, parce que le manga, c'est un peu comme le cinéma. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter au gros blockbuster, mais il y a tellement, il y a une richesse, il y a une variété de thèmes, d'histoires, de styles. On peut pas s'arrêter à juste un aspect du manga.
Et ça s'est développé avec le temps ou de tout temps au Japon, en tout cas, le manga a été riche de styles différents et il y avait des mangas pour les adultes, des mangas plutôt pour les enfants, des mangas artistiques.
Ouais, ça serait très très long et compliqué de faire l'historique du manga, mais globalement on a commencé surtout par des mangas pour les enfants, puisque elle a sorti, comme on l'a dit, ça date d'il y a longtemps, mais ça s'est vraiment développé à la fin des années 40, 50, enfin avec la sortie de la guerre, il fallait de quoi amuser les enfants. Et en fait, les enfants grandissant, après, il a fallu continuer à développer pour pas qu'on perde la manne de lecteurs des intrigues pour les adultes.
Et en un mot, comment vous définiriez la singularité du manga par rapport à la bande dessinée ou alors le manga est juste la bande dessinée japonaise?
C'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est dû aussi à l'éducation et peut-être, c'est très personnel, mais à l'aspect religieux, dans le sens qu'en France, on est plutôt de confession chrétienne, majoritairement, surtout à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Et il y avait cette espèce de fracture en disant la bande dessinée, c'est les Mickey, c'est pour les enfants. Quand tu grandis, t'es un homme, t'arrêtes ça. Le manga n'a jamais eu cette pensée-là, de parce qu'ils sont shintoïstes et aussi bouddhistes. Et en fait, c'est quelque chose qui est très... Il y a un rapport au bien et au mal, il y a un rapport à la foi, il y a un rapport à la nature, il y a un rapport à plein de choses qui sont très différents. Et je pense que dans la tête des Japonais, quand les histoires ont continué à se développer, ils ne se sont pas dit on doit arrêter
on
ça.
Doit arrêter, au contraire, c'est quelque ça chose a permis une créativité plus forte peut-être que chez nous, justement, pour les mangas pour adultes. Hein.
Bah, ils se donnent pas de limites, disons. Même dans les récits pour enfants, un récit pour enfants peut être un peu plus violent, un peu plus sombre, un peu moins manichéen, ou des fois même très manichéen, mais aller au bout de la réflexion, en se disant que ça reste de la bande dessinée et qu'un enfant peut quand même comprendre la différence entre le vrai monde et la fiction et que ça peut l'aider au contraire à grandir et à se développer.
À l'heure d'une première pause musicale dans Zoom Zoom Zen, je dois admettre qu'il y a chez moi une part de déception puisque la direction d'Inter ayant mis son veto, nous n'écouterons pas dans sa totalité le générique d'Olivier Tom.
C'est un peu normal.
Ce qui est dommage. À la place, je vous propose Portugal, Feel It Still sur Inter. C'est différent, mais c'est pas mal aussi.
Keep my hands on myself. Keep those dust them all. Put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babysitter. Mama called the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966.
Cédric De Pape est notre éclaireur cet après-midi. Il nous fallait bien quelqu'un surnommé Thunder Geek sur les réseaux pour nous décrypter le phénomène manga et ce nouveau synonyme de star dans l'édition mangaka, auteur donc de manga. Expliquez-nous comment déjà on devient mangaka, Cédric.
Il n'y a pas une école spéciale. Il y a des écoles de mangaka au Japon, mais c'est compliqué de parler de ça. C'est l'artiste de manga, le mangaka, Déjà, il faut faire une différence. Enfin, le terme est général, on parle de mangaka en général, mais il y a une différence de dire qu'un mangaka, à la base, c'est plutôt le dessinateur, et c'est manga Gensakusha, le scénariste, on va dire.
Ah, d'accord.
Okay. Mais généralement, on va parler de mangaka, ça s'est un peu unifié pour aller plus simple, et on va rester sur le terme mangaka dans tous les cas. Mais l'idée, généralement, on va dire... mis en avant par les mangaka eux-mêmes, par toute cette industrie, c'est que globalement, si vous êtes vraiment très passionné de manga, vous voulez en faire votre métier, vous essayez d'en faire vous-même de votre côté, vous vous présentez à une maison d'édition. Les maisons d'édition ont des services avec des... on va dire des producteurs, entre guillemets, en fait, qui viennent lire vos planches, analyser, voir s'ils trouvent quelque chose d'intéressant ou pas. C'est vraiment leur métier, et c'est pas juste une question d'histoire, c'est plutôt quel est votre trait, quel est votre storytelling, et ils peuvent se dire, tiens, il a une façon de raconter intéressante, mais là, son point faible, c'est le dessin. Ou à l'inverse, dire, il dessine bien, mais peut-être pas bien pour du manga, bien pour l'illustration, il faut qu'il apprenne à développer une forme d'effet de mouvement, des effets de style, pour mieux compenser ça. Et normalement, le producteur, on va dire, l'éditeur va essayer de garder ou pas ce poulain, de le former, et quand il pense qu'il est prêt, il va essayer de le proposer à des magazines de prépublication.
Vu les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure, et qu'on évoquera certainement un peu plus loin, les chiffres de vente stratosphériques, j'imagine qu'il y a une pression monstrueuse dans ce milieu-là des mangas, essentiellement au Japon, même si c'est un phénomène désormais mondial. Il doit y avoir une concurrence entre les mangakas qui doit être gratinée.
Là aussi, c'est un peu particulier, puisque je pense que ça va dépendre déjà de l'auteur. C'est-à-dire que souvent, quand on parle du succès des mangas, on s'arrête souvent, très très souvent, à ce qu'on appelle les mangas shonen, donc les mangas pour jeunes garçons. Un petit peu plus aussi les mangas seinen. Le manga shoujo, donc le manga pour jeunes filles, lui est en France très mis de côté de manière assez stigmatisante, on va dire. Et c'est un vrai débat actuellement dans les communautés manga de remettre en avant le manga pour femmes et fait par des femmes aussi.
Il y a beaucoup de femmes mangaka d'ailleurs.
Oui, il y en a beaucoup, bien sûr. C'est juste qu'elles sont un peu moins starisées que les garçons, puisque c'est vraiment encore une fois... En fait, c'est une question de... C'est l'œuvre qui amène la célébrité, en fait. Et ce qui a été mis en avant, c'est surtout des œuvres comme Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, plus récemment One Piece, Naruto, L'Attaque des Titans, et c'est souvent des hommes derrière ces œuvres-là.
Et des bagarres et tout ça.
Et il n'y a pas un problème aussi dans la façon dont les femmes sont représentées dans les mangas? Elles sont quand même très souvent hypersexualisées, enfin, c'est souvent dénoncé en tout cas par beaucoup de femmes.
Et bah justement, c'est souvent des regards masculins,
oui,
mais il y a beaucoup de femmes qui dessinent des mangas pour femmes ou avec des personnages féminins en avant et qui les représentent pas. Comme ça, c'est vraiment une question de représentation et de qui tient le pinceau et qui écrit l'histoire, en fait, je pense, surtout. Mais oui, c'est un cliché qui est la vie dure, c'est du fanservice. À la base, le but de ce fanservice, c'était de présenter différentes choses pour garder l'attrait des adolescents.
Oui.
Et donc, il y a la bagarre, il y a le sport, il y a la compétition, le dépassement de soi, et effectivement, les filles et le fait de mettre des filles un peu dénudées en avant, il y a une objectification assez importante, mais qui tend à changer avec le temps. Et surtout, un personnage, c'est ça où ça devient des fois intéressant avec le manga, c'est qu'une femme dans un manga peut être source de fanservice, mais pour autant être un personnage fort avec du caractère et beaucoup de personnalité, en fait.
En tant que spécialiste de cet univers des mangas, vous pouvez expliquer chaque succès, ou parfois il y a certains succès qui vous dépassent, ou bien, par exemple, si on cite par exemple One Piece, que tout le monde, même le grand public, connaît, est-ce que quand vous lisez ce manga, vous vous dites c'est normal qu'il ait eu succès, ou il y a un facteur chance quand même qui fait qui vous étonne?
Ça serait présomptueux, je pense, de dire qu'on peut expliquer chaque succès, surtout à rebours, c'est facile de réécrire l'histoire. Dans le cas de One Piece, on peut quand même dire un truc, c'est que la thématique de One Piece, qui est la piraterie, était un thème qui n'était pas énormément travaillé, surtout à cette époque-là, en fait, dans les mangas. C'était pas la chose la plus mise en valeur. Et c'est une question de différents... paramètres de hasard qui se regroupent et qui créent ça. C'est-à-dire que le trait de l'auteur a beaucoup plu, la manière dont il racontait ses histoires, l'espèce d'appel à l'aventure qui rappelait certaines séries ou certains jeux vidéo, comme, je sais pas, par exemple la série des Legend of Zelda ou ce genre de choses. Enfin, il y a quelque chose de très... il y a le souffle de la liberté qui appelait. Et au tout début, maintenant il est admis, on a plus de 100 volumes sur One Piece, l'œuvre est dantesque, il y a énormément de personnages, d'arcs narratifs, d'intrigues politiques, mais il était bon de dire qu'au début c'était pas ça, quoi.
Quentin ?
C'est terminé aujourd'hui One Piece ?
Non, c'est toujours en cours.
C'est toujours en cours, et la boucle est bouclée, puisqu'on a appris cette semaine que le jeu One Piece Odyssey va être adapté en roman. C'est un succès sans fin, quoi.
D'accord, ouais, ouais, bah, je savais pas ça. Bah,
on crée un jeu et on en refait un roman derrière.
Pourquoi pas, Quentin ? Un jour, Zun 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 va être un roman.
C'est après, là, c'est pas propre au Japon, j'ai envie de dire, c'est propre à toutes les grosses industries. Vous prenez Marvel, tout le business qui est fait autour, on crée des tonnes de choses en boucle.
Tant que ça rapporte.
Voilà.
Juste une question, je vais vous tester sur un truc pour voir si vous êtes meilleur que notre rédacteur en chef. Qui a écrit L'Attaque des Titans ?
Hajime Isayama.
Exactement. Il était l'invité d'Inter l'autre jour. Et j'ai une question qui a été écrite par mon rédacteur en chef qui nous a dit L'Attaque des Titans de Naruto. Je pensais que Naruto avait été l'invité de Léa Salamé l'autre jour, et ça, voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil à mon cher Cyril, je t'embrasse. Alors lui, Cédric, il n'a jamais lu One Piece, il a essayé un jour de lire un manga, mais comme il ne savait pas que ça se lisait à l'envers, il a trouvé que l'intrigue était vraiment décousue. Mais pourtant, comme je vous le disais, s'il y a un jour un live-action de Dragon Ball, il pourra prétendre rôle de Goku, enfant bien sûr. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des Français, ou disons plus modestement des Parisiens habitants entre Ranelagh et Maison de la Radio, sauf aujourd'hui. Vous êtes pour une fois sorti de votre zone de confort.
Oui.
Cette folie manga, vous avez pu la mesurer dans un lieu dédié à notre thème.
Le manga café dans le 13e arrondissement de Paris. 19 000 mangas proposés à la lecture. Un lieu chill, détente, à base de canapés et de posters en tout genre. Voici Ben, le gérant du lieu.
On a des habitués qui viennent toutes les semaines chercher leur nouveauté, leur dose de nouveaux mangas. Parce qu'en fait, il faut savoir que tu as à peu près entre 120 et 150 nouveautés par mois. C'est très important. Donc, il y a des gens qui ont, je sais pas, 10 séries qui suivent toutes les semaines, qui viennent chercher leurs 10 séries. Donc, et à côté de ça, nous, on vend beaucoup d'épiceries japonaises. Donc, on a plein de gens qui viennent chercher des bonbons, des gâteaux, des boissons, des chips et tout ça.
D'ailleurs, je vous ai ramené des petits,
gâteaux. Oh,
génial.
Ben oui, parce que dans les mangas, ça parle snack. Souvent, les personnages grignotent de la nourriture qu'on peut ensuite acheter. Je vous ai ramené les échantillons. Goûtez-moi ça. Moi, je continue de vous raconter un peu comment j'ai rencontré les gens.
Oui.
Je grimpe maintenant quelques marches et j'arrive à l'étage. Au coin lecture, je rencontre cette jeune femme qui a son ordinateur portable posé sur ses genoux. C'est calme.
Bon, faut pas parler trop fort. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Je m'appelle Sarah.
Sarah, vous avez quel âge ?
J'ai 18 ans.
18 ans ? Entourée de milliers de mangas, elle me parle de la rencontre avec cet univers.
C'est vrai qu'à la base, moi j'étais surtout dans les livres, dans les BD, et on m'a fait regarder un animé, et j'ai trouvé ça trop trop bien. Du coup, forcément, bah, j'ai découvert les mangas qui vont avec. J'ai commencé avec Fairy Tail, du coup, c'est mon cousin qui m'a montré. Et bien évidemment, dans mon enfance, vu que ma mère aussi regardait des animés, Naruto et One Piece surtout. Mais c'est vrai qu'en fait, dans les mangas, le style est assez différent. Par exemple, il y a des traits qui vont disparaître, il y a des traits qui vont être en plus. Puisqu'en fait, la base du manga, c'est surtout en noir et blanc. J'ai beaucoup accroché avec le noir et blanc, je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment plu. Et du coup, maintenant, je suis vraiment à fond dedans.
Bah oui, ça s'entend un peu. Est-ce qu'elle est devenue collectionneuse ?
Maintenant, j'essaie de collectionner les mangas. Par exemple, si je peux acheter, surtout avec le pass culture, ce qui est super bien. On a 300 euros de... Bah du coup, moi, ce sera que 300 euros de manga. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment, bah, il y a des mangas qui me plaisent. Je vais les acheter. En fait, je vais tous les acheter. Donc, je vais prendre un peu de temps pour tous les acheter, mais vraiment, je vais les collectionner. Parce que du coup, mon but, ce serait vraiment de pouvoir avoir une mangathèque avec des figurines aussi, parce que j'aime bien vraiment collectionner tout ça.
Alors qu'il était en train de se marrer dans la salle d'arcade en jouant à Street Fighter avec ses potes au fond du magasin, je rencontre ce jeune homme.
Ah! Alors après, mangaka, on pense aux auteurs des différents mangas. Donc pour certains, ça va être Eiichiro Oda. Pour beaucoup, on aura l'auteur d'Esenka qui est venu à Angoulême, au Festival International de la BD d'Angoulême. C'est la première fois d'ailleurs qu'il venait en Europe. Et il avait vachement apprécié les fans français qui étaient apparemment très respectueux, qui aimaient beaucoup son œuvre.
Il s'appelle Wallace, il a 21 ans, il est étudiant en école d'ingé et visiblement il s'y connaît. Comment il s'y est mis, lui ?
C'est un truc que nos parents déjà ont découvert bien avant nous, avec le club Dorothée ou Albator. Goldorak. Non, moi, à la base, je suis tombé dedans parce que je faisais un blind test avec la famille. Puis on avait entendu donc un générique d'animé qu'on appelle un opening. J'avais entendu celui de Elfen Lied ou Elfen Light, ça dépend comment certains le disent. Et moi, j'avais beaucoup aimé la musique. J'ai fait, bah allez, tiens, je vais regarder. C'est comme ça que je suis tombé là-dedans.
Elfen Lied, on le dit comme ça ?
Oui, tout à fait.
Sur Inter, ça c'est pour faire plaisir à Wallace et pour faire découvrir aussi à nos auditeurs cet univers. Il me tend un manga et commence par me décrire la base, le sens de lecture inversé.
On commence à droite, on finit à gauche et haut en bas. Bon, ça c'est le truc qu'on a en commun, c'est haut en bas. Ça va vraiment dépendre des goûts de chacun. Après, techniquement, les mangas, il y en a pour tous les goûts. Tous ceux qui aiment la romance, les mangas de romance, c'est pas ça qui manque. Tout ce qui est autour du fantastique, c'est pas ça qui manque. Moi, après, je cherche beaucoup les trucs qui sortent un petit peu du lot. Donc il y a certains trucs de fantastique ou même par exemple l'horreur avec Junji Ito que je trouve très original et vachement poussé, notamment dans le gore.
Je prends en note le conseil, mais un dernier point quand même m'intrigue, la dimension érotique dans les mangas.
Personnellement, je ne suis pas fan. Non, j'aime pas. J'aime pas parce que déjà en matière de proportion, on va dire que ça va absolument rien dire des fois au niveau des personnages. Surtout que bon, Vu que ça s'adresse à la base surtout à un public japonais, ils ont des fantasmes qui sont assez... Ah, ils sont très limites, franchement. Il y a beaucoup de scénarios d'hentai, ça tourne autour du viol, quoi. Ça tourne autour du viol, ça tourne autour de la zoophilie. Non merci, ça ira, au revoir.
Un univers si large qu'il est même difficile d'en faire le tour en une après-midi au Manga Café. Ça tombe bien, c'est l'heure de goûter. Moi, je m'ouvre une canette de café. Santé.
Cédric Depape, alias Thunder Geek, passionné de l'univers manga, est notre invité cet après-midi dans Zoom Zoom Zen. Alors, on vient de l'entendre dans la voix de ces passionnés. Une des grandes forces des mangas, c'est qu'au-delà d'être une bande dessinée, et une bande dessinée, on l'a vu, assez riche dans les thèmes abordés, c'est aussi tout un univers de produits dérivés, de jeux vidéo, d'animés, donc de dessins animés, tout le merchandising autour.
De nourriture.
Et de nourriture, on vient de déguster des produits. C'est un monde en soi, le manga, en fait.
Oui, mais comme je le disais un tout petit peu plus tôt, c'est un petit peu comme quand on voit l'attrait des gens pour le MCU. En fait, c'est comme si vous allez à Disney, en général, vous allez
Marvel
manger Disney.
Marvel Cinematic Universe.
Tout à fait, vous allez manger Disney, vous habiller Disney, vivre Disney, en fait, c'est très passionné. Et le Japon a pensé depuis longtemps tout ce concept de merchandising, donc de...
Ils ont été pionniers là-dedans.
Voilà, où ils ont vraiment pensé toute cette... problématique de dire nos lecteurs, on va faire en sorte qu'ils continuent à vivre dans ces univers-là le plus possible.
Manon. J'ai l'impression que le manga est l'un des rares objets à pas se transformer en simple fichier numérique comme, les chansons avec les vinyles et compagnie. Est-ce qu'il y a encore une vraie culture d'aller dans un magasin pour aller chercher vraiment son manga, son exemplaire et le mettre dans sa bibliothèque ?
Oui. En France, en tout cas, on reste très attaché à l'objet du livre. Il y a tout un marché du numérique, mais qui a un peu de mal à se développer, même si ça tend forcément, surtout depuis le Covid, où ça avait été un peu compliqué d'aller se fournir. Mais effectivement, l'objet en soi du manga, il reste très apprécié. Les lecteurs de manga, en plus prenant de l'âge, même s'il y a un nouveau public, mais les gens qui ont commencé le manga de plus en plus continuent à en lire, donc il n'y a pas d'arrêt. Donc vous avez un public lecteur qui va, je pense qu'il commence petit, vers 6-7 ans, et il y en a maintenant à 30, 40, 50 ans, et ils ont envie d'avoir des beaux livres, des beaux objets.
Mais donc, une collection, quoi.
Quentin.
Il y a Wallace qui nous a parlé de cet auteur reçu par le festival d'Angoulême. Cette année, je vous ai vu sourire quand il a parlé de ça. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça dit de la place des mangas dans notre culture aujourd'hui en France, qu'ils soient reçus comme ça au festival de bande dessinée d'Angoulême ?
Ça me semble être juste un mérite justifié, en fait, dans le sens que le festival de la bande dessinée internationale d'Angoulême, il doit recevoir des auteurs internationaux.
Oui, c'est mieux.
Et il y a eu en plus plusieurs fois des déboires vis-à-vis du manga où on sait que ça a été très mal considéré par certaines personnes du festival, certains. Un peu garde-fou, quoi, qui essaie vraiment de faire en sorte que cette culture de la BD reste très centrée sur la bande dessinée, et comme s'il y avait une espèce de hiérarchie. Mmh. Or, le manga, on peut l'appeler comme on veut, ça reste de la bande dessinée au même titre que le comics, donc c'est tout naturel que une des bandes dessinées les plus lues et appréciées au monde, le Festival Angoulême, reçoit ses auteurs, en fait.
On continue à parler manga et mangaka dans Zoom Zoom Zen avec notre invité Cédric Depape alias Thunder Geek. Le Thunder Quiz arrive et sachant que ni Manon ni Quentin n'y connaissent quoi que ce soit en manga, ça devrait être assez pittoresque. Mais d'abord, la direction d'Inter y ont refusé, allant jusqu'à agiter la menace d'une faute grave, qu'on écoute le générique du collège Foufoufou.
Exagéré, on n'est tout de même pas fait pour travailler comme des damnés, il faudrait inventer le collège Foufou.
C'est bien, vous avez ramené vos cassettes, ça fait plaisir.
Mes cassettes, exactement, et ma mère vous embrasse quand elle m'envoie un petit message. Alors ça sera pas le disque 2, hein, le collège Foufoufou, plutôt écouter November Ultra, novembre sur Inter.
I miss Christmas at your house, making fuzzy angels in the snow. My name sounds better in your mouth, warm from coffee under the mistletoe. Oh, cars and buses take me places, but I miss home. Trains and faces, smiles are fading, I just miss home.
November.
It's Christmas at your house, watching Julie Andrews on the hill. I feel much better when you laugh. In the echo, life and time stand still. I keep changing, but nothing changes. I just miss home. Heart keeps racing. Who am I chasing? Am I chasing home? November's all year long now. December never came. I realize I'm alone now, but they all think I'm the same.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Zoom Zoom Zen spécial manga cet après-midi, une émission qu'attendaient avec impatience Manon et Quentin, deux encyclopédies vivantes du manga.
Ça va.
Plus que des passionnés, des puristes, je crois qu'on peut le dire, hein, de Pokémon à Pikachu.
Manon s'étouffe.
Ah, Manon s'étouffe parce qu'elle a goûté des petits gâteaux.
J'ai goûté le gâteau, pardon, excusez-moi. C'est super oui, bon, c'est mais bon. C'est un peu étouffe chrétien quand même.
Pas voilà. Du tout, c'est délicieux. C'est un, comment on dit ?
Un dorayaki.
Un dorayaki, je vous le conseille, avec ça, de oui. La pâte de haricots rouges. Abordons le Zoom Zoom test. Manon, Quentin, respectivement 31 et 67 ans, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour booster votre culture manga. Je vous donne des pitchs de manga ou d'animés dérivés d'un manga. À vous de me dire, 1, si ce manga existe ailleurs que dans mon cerveau malade, 2, le cas échéant, de quel manga il s'agit. Attention, top ! On démarre dans le facile, le très facile même. Je suis un manga culte dont le personnage central est inspiré de Sun Wukong, personnage d'un roman chinois de la fin du XVIe siècle, La pérégrination vers l'ouest de Wushang'en. Je suis publié pour la première fois dans le magazine Weekly Shonen Jump du 20 novembre 1984. Mon auteur n'a alors que 29 ans et il ne le sait pas encore, mais il aura bientôt beaucoup plus de facilité que Quentin, lui, a acheté un F2 à Bagnolet. Aujourd'hui, il pourrait même acheter Bagnolet dans son intégralité. Son manga est célèbre dans le monde entier, notamment en France, grâce aux éditions Glénat, qui l'édite à partir de 93. Comme tout manga à succès, je suis ensuite adapté en dessin animé qui mélange aventure et humour, comme le prouvent certaines répliques particulièrement savoureuses comme
Dragon Ball.
Oh oui.
Ah non, mais il y avait une réponse à donner là.
Ah non, non, on m'indique en régie que ce n'est pas une bonne réponse, malheureusement.
Ah bon.
Et non, je suis les tribulations d'un petit garçon à la force herculéenne et doté d'une queue de singe qui recherche frénétiquement 7 boules de cristal. Je suis Dragon Ball. C'est le titre original. On voulait le titre original. Et non pas. Et on est très écouté au Japon. Et donc,
La DBZ, quoi.
Non, pas du tout, pas du tout. Dragon Ball. Attention, top. Je suis le premier manga normand. Je retrace les aventures d'un jeune commercial des Cafés Richard qui tombe un jour sur un champion d'escalade et de jujitsu brésilien qui lui dit « c'est de la merde les Cafés Richard ». Dans un réflexe de légitime défense, il le tue et devient alors fugitif. Manga subversif, j'ai été rapidement interdit car contenant des scènes de sexe avec des bovidés, je suis
Quentin, lui.
Non, je suis...
N'existe pas.
N'existe pas, bonne réponse. Même si je suis d'accord avec vous, ça donne envie. Attention, top. Il n'y a pas que Dragon Ball dans la vie. Vieux boomer pourri, ajouterait mon fils qui entre doucement mais sûrement dans la préadolescence. Je suis un manga à succès plus récent évoquant un étonnant équipage composé d'humains, d'animaux, de monstres et dont le capitaine a mangé un fruit du démon appelé Gum Gum qui rend ses membres élastiques. Pratique, se dit Cyril Lacarrière, mais non, c'est un manga pour enfants. En tout cas, tout public. Mon héros...
Stop.
J'espère que mon fils n'écoute pas. Non, mon héros cherche à mettre la main sur le trésor caché des pirates au Québec, où on traduit
One Piece,
tout.
One Piece.
One Piece, exactement. Une pièce au Québec. Bonne réponse de Quentin, lui.
Une pièce.
Vous faites l'accent, vous
non,
vous tenez
bon,
si,
va.
Si, vous avez l'air de le tenir.
Non, c'est bon, c'est bon.
Stop.
C'est dommage. Alors, le One Piece étant dans l'histoire le nom du fameux trésor caché par Gold Roger. Attention, top. Vous entendez là la musique de ce manga, qui donc, c'est un indice, existe. À moins... Bien sûr que je me sens emmerdé à composer un titre qui plus est symphonique pour ce quiz.
Bien sûr, oui.
Avec l'orchestre de Radio France.
Mal me connaître. Mon personnage principal est une personne entièrement reconstruite en fibre de carbone. Pourtant, je ne suis pas un biopic de Lian Folly qui n'apparaît même pas au générique. Je suis l'œuvre du mangaka Imoru Arakawa et je raconte l'histoire de deux frères dont l'un sauve l'autre, l'âme de l'autre, en la scellant dans une armure. Mon titre, Full Metal Jacket,
non mais...
Full Metal Alchemist, où on a tous le droit.
B, Alchemist.
Bonne réponse de Manon. Mais Manon, vous y connaissez en manga.
Ah non, mais pas du tout.
Je n'aurais jamais
Jacket non.
Vous n'avez jamais entendu même ne serait-ce que le nom?
Pas trop, non.
Parce que là, par élimination, c'était possible d'y arriver.
Ah oui, c'est pour ça.
Très beau manga, très belle musique, Full Metal Alchemist. Attention, top! On va terminer ce quiz par un hommage à la culture manga de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, celui-là même qui m'avait mis dans les questions. Qu'est-ce que vous pensez de Naruto, l'auteur de l'Attaque des Titans? Petit rappel donc, Naruto n'est pas, comme le croyait Cyril, un mangaka, mais un manga tout court. À une syllabe près, il avait bon. Naruto est un des plus célèbres mangas du monde. Il vous sera donc facile de répondre à cette ultime question, c'est une formalité. Qu'est-ce qui se cache dans Naruto? Un deuxième cœur, pratique en cas de pépin. Un deuxième foie, pratique en cas de cuite. Un ange Pégase à 4 ailes ou un démon renard à 9 queues?
L'ange Pégase.
Le renard à 9 queues.
Le renard à 9 queues, oui! Et oui, ce pauvre Naruto n'a pas deux foies, seul Cyril Lacarrière présente ses spécificités anatomiques. En revanche, il a, ce qui prend beaucoup plus de place, un démon renard à 9 queues. Et sinon, qui gagne le quiz là?
C'est moi. Non, on est égalité.
C'est Manon qui gagne le quiz.
Mais non, mais vous.
Mais sinon, alors, comment s'appelle le grand rival de Son Goku qui devient ensuite son ami,
non,
mais qui
non,
reste
ça,
aussi bougon que Cyril?
Mais j'ai jamais vu des DBZ.
Bon, vous n'en avez aucune idée, c'était Vegeta. C'est Manon qui remporte le quiz.
Vegeta quand même, content.
Vous ne connaissez même pas Vegeta, mais quel loser. Mais vous me faites de la peine. C'est terrible de pas
connaître. Vous imaginez, moi je pense que les auditeurs vont recompter les points. Parce que c'est pas possible, j'ai gagné là.
Alors non, je pense, Quentin, très franchement, je pense que les auditeurs d'Inter ont autre chose à foutre que recompter les points
dans
notre
rien.
Quiz. Cédric Depape est toujours avec nous. Parlons chiffres, Thunder Geek. Selon une étude GFK, la part du marché français du manga pour l'année 2021 est de 55% avec 30 millions d'exemplaires vendus. C'est-à-dire qu'une BD sur deux qui se vend en France est un manga. Comment Dragon Ball a fait pour mettre KO Astérix en finalement assez peu d'années? Ça, c'est,
Peu d'années, oui et non, c'est relatif, puisque Dragon Ball s'est arrivé en France en 89-90.
C'est très récent.
Ça fait 33-34 ans, et il y avait déjà eu un petit terreau avant. C'est-à-dire qu'on trouve même certaines revues comme Le Cri qui tue, ou ce genre de choses, qui étaient déjà dans les années 80. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu un boom économique du manga depuis le Covid. Qui s'explique par un ensemble de facteurs, on va pas trop détailler parce que ça serait un peu long et rébarbatif, mais effectivement, le Covid, le fait que les gens avaient besoin de se retrouver dans des valeurs un peu refuges, donc ça fait que beaucoup de gens ont racheté certaines vieilles séries, il y a des nouvelles qui ont été mises en avant par les animés, dont on parlait au début de l'émission. Il y a le fait aussi que le pass culture a beaucoup aidé, parce que les jeunes étant fans de mangas, ça fait qu'ils ont pu dépenser beaucoup plus dans les mangas.
Mais 60% des livres achetés avec le pass culture sont des mangas.
Ouais. Ça me semble pas très étonnant, je m'attendais même à plus.
Même à plus.
Ouais, au vu du chiffre, je m'attendais à plus. Non, je pense que c'est juste que la bande dessinée française, elle reste très riche, très intéressante, mais elle n'arrive pas à se développer pour un public plus jeune, hors de quelques exceptions qui restent. Faut pas oublier, il y a des œuvres qui parlent encore de bande dessinée franco-belge, qui parlent encore beaucoup aux enfants. Quoi. Mais il y a beaucoup de choses, non, c'est plutôt des institutions, ou alors c'est pour un public, on va dire, un peu plus de connaisseurs. Le manga, ça s'adresse un peu à tout le monde, et surtout c'est simple, ça se met dans la poche, un enfant il le passe à son ami, enfin voilà, ça se partage très vite en fait.
Est-ce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission sur le ton de la dérision de ce fameux Club Dorothée, il n'a pas eu quand même une influence décisive au sens où ça nous a habitués au coup de crayon, au style des mangas, et finalement on a lu Dragon Ball, mais on a lu aussi autre chose derrière, on s'y est habitué, c'est rentré dans notre culture en fait, qui n'était pas du tout notre culture le manga.
Oh oui, ça, je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'allaient pas trop dans le Club Dorothée de manière générale.
Ah
mais
oui,
ça on peut pas enlever, même si le doublage d'époque, des fois, massacrait un peu les séries, même si les épisodes pouvaient être remontés, recutés pour enlever les scènes de violence, par exemple, dans Ken le Survivant.
Et dans Ken le Survivant, mais qui était déjà très violent, j'imagine à peine ce qu'était là.
C'était très violent, effectivement. Mais du coup, oui, je pense que ça a dû clairement avoir une influence, ouais.
Quentin.
Tout à l'heure, dans le micro-trottoir, on a entendu la dimension érotique et on a appris que la personne que j'ai rencontrée, Wallace, qui était en train de regarder les mangas, c'était pas trop son truc. Il parlait des recettes des hentai, viol, zoophilie. C'est vrai tout ça?
Oui, mais ça serait là encore une fois très résumé un truc qui est beaucoup plus complexe, puisque le concept du hentai, c'est que c'est du manga pornographique. Donc le but d'un manga pornographique a juste pour but, comme le porno, de satisfaire quelque chose. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on parle d'une notion, c'est un mot anglais, le kink, donc on va dire un désir sexuel très particulier en fait. Et le manga propose un éventail de kink très développé, dont des choses qui sont souvent illégales.
Il y en a pour toutes les perversions en fait, c'est juste un business aussi.
Voilà. Mais là, c'est, on rentre dans quelque chose de sociétal, parce que même au Japon, il y a beaucoup de débats sur les mangas pédopornographiques, en fait, sur le savoir les interdire ou pas, quelle est la limite, machin. Enfin, c'est très compliqué. Parce
il y en a qui sont interdits
actuellement. Non, j'ai pas mes mémoires, enfin, ouais. J'ai pas une grande connaissance non plus du marché de la bande dessinée pornographique japonaise, quoi. Mais non, mais il y a beaucoup de débats en revanche et de questions politiques qui rentrent en jeu, surtout avec bon, alors les JO qui sont passés mettaient en avant énormément le fait que le Japon voulait peut-être pas mettre spécialement ces parties-là de la culture manga à l'international, en fait.
Est-ce que on parlait tout à l'heure dématérialisation, est-ce que le vous disiez qu'en France c'était pas encore le cas, mais est-ce qu'au Japon on lit beaucoup de mangas en version dématérialisée sur sur des liseuses,
énormément sur les smartphones, sur les liseuses, ça s'est beaucoup développé.
Pas du tout chez nous, je crois, non ?
Non, pas du tout, enfin ça prend, nous il y a vraiment cette idée très comme souvent en Europe très conservatrice des choses et le livre ça reste un objet important. En Asie, ils sont plutôt vers l'attrait de la nouveauté, ce qui peut être facile, ce qui peut rendre les choses plus agréables. Et lire un manga sur son smartphone dans le métro, c'est bien plus simple et plus pratique qu'avoir un livre dans les mains.
Vous écoutez France Inter, on ne sait pas exactement quelle heure il est car on a enregistré cette émission hier. Ouais, certainement aux alentours de 5h moins le quart. Dans quelques instants, notre humoriste Yann Marguet, qui a grandi avec pire que le club Dorothée, les Babibouchettes sur la télévision suisse romande, viendra nous dire combien d'années de psychanalyse ça lui a coûté. Mais d'abord, elle aussi a dû en passer des heures sur le divan pour exorciser le traumatisme Sailor Moon, ne serait-ce que le générique.
Sailor Moon, Sailor Moon, une fille pas comme les autres.
Une fille pas comme les autres, voilà une définition qui sied particulièrement bien à Manon Mariani.
Ah, c'est vrai.
Alors Manon, chaque jour... C'est exemple, vous me prenez et vous me mettez littéralement à jour comme une vieille appli. C'est comme ça que vous me traitez. Grâce à votre veille sanitaire, on sait tout ce qui agite en temps réel les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un business très juteux pour les youtubeurs.
I literally bought every single item in 5 stores.
Lui, c'est Mr Beast, c'est le youtubeur le plus suivi au monde avec 137 millions d'abonnés. Il est américain, mais ça ne veut pas dire que son audience l'est aussi. Je m'explique. Selon YouTube, les deux tiers du temps de visionnage d'une chaîne d'un créateur proviennent d'un autre pays que le sien. Autrement dit, la chaîne de MrBeast n'est pas que regardée par des Américains. Bon, ça, on pouvait s'en douter, mais vous allez voir, les youtubeurs ont décidé de prendre cette donnée en considération. MrBeast a décidé d'investir dans une méthode un peu désuète.
Compramos cada uno de los artículos de cinco tiendas.
Я собираюсь купить все товары в пяти магазинах.
J'ai acheté absolument tous les articles de 5 magasins.
Du doublage, et oui, MrBeast version français, espagnol, russe et j'en passe, maintenant ça existe. Le youtubeur propose des versions doublées de certaines de ses vidéos. Il suffit de cliquer sur la fonction audio track de la vidéo et de choisir la langue que vous voulez, tout simplement. Et ça peut même être automatique quand l'option est proposée. YouTube change la langue directement en fonction du pays où l'on se trouve.
Donc en gros, YouTube fait ce que les chaînes télé faisaient il y a 20 ans.
Totalement. Et en même temps, vu la popularité de certaines chaînes, ce n'est pas si étonnant. Après tout, une vidéo de Squeezie peut être vue autant fois qu'un épisode d'une série. Mais le doublage a un but très clair, attirer plus de public à regarder ses contenus. Du coup, des sociétés spécialisées dans les doublages de vidéos YouTube se sont créées et si ce n'est pas encore un marché en plein essor, ça commence petit à petit. L'une des premières à avoir investi dans ce nouveau business est canadienne, elle s'appelle Unilingo. Elle met à disposition des acteurs qui travaillent pour les youtubeurs et qui doublent leur contenu. En échange, ils lui cèdent une part des revenus générés par ces vidéos. Unilingo, c'est l'entreprise qui a signé avec MrBeast, mais pas que. Elle compte aussi comme gros client la chaîne Dude Perfect, 59 millions d'abonnés, ou celle de PewDiePie, 111 millions d'abonnés. Eux n'ont pas souscrit à la même stratégie que MrBeast. Ils ont carrément créé une chaîne supplémentaire en version espagnole. Donc vous allez voir la chaîne principale de PewDiePie et sa chaîne PewDiePie en espagnol.
Et est-ce que ça marche ?
Ça dépend de la nationalité du youtubeur, par exemple. Pour PewDiePie, lui, il est suédois, mais sa chaîne est principalement en américain. Donc sa chaîne version espagnole compte seulement 10 000 abonnés. Mais lorsque la langue d'origine est moins accessible au grand public, ça peut cartonner. Exemple avec la jeune youtubeuse russe Nastia. Elle cumule 7 chaînes doublées en différentes langues, en plus de sa chaîne principale. Et chacune de ces chaînes compte des millions d'abonnés. Grâce à cette stratégie, les recettes de certaines de ses vidéos peuvent doubler, voire tripler. Après, évidemment, il faut avoir les revenus suffisants pour pouvoir se payer des doubleurs. Les chaînes dont j'ai parlé comptent de base des millions d'abonnés minimum et sont déjà bien installés, donc ça aide. Certains youtubeurs ont donc trouvé un plan B, le faire soi-même. C'est le cas du français Kevin Tran. En 2021, il a décidé de produire tous les contenus de sa chaîne principale en anglais et ses vidéos en français ont basculé sur une chaîne secondaire. Alors, il a révélé au journal Le Monde que ses vues avaient forcément baissé depuis ce changement, mais qu'il fallait quand même rester patient. C'est vrai que c'est un pari osé, mais forcément, produire du contenu en anglais, c'est s'ouvrir à un public international que l'on perd avec la langue française, et en même temps, c'est aussi se retrouver noyé dans une concurrence mondiale. En tout cas, le doublage sur YouTube a de beaux jours devant lui, et franchement, j'avoue que j'en suis un peu la première surprise, plus personne ne regarde des films ou des séries en VF, c'est devenu complètement ringard, mais peut-être que YouTube va le remettre au goût du jour.
Merci Manon, enfin, complètement ringard, on se demande bien pourquoi.
Tu vas prendre ton bâton magique et le mettre à l'intérieur.
Le doublage, il n'y a que ça de vrai. Zoom Zoom Zen, spécial manga continue, Yann Marguet arrive, et oui, je sais que vous étiez nombreux à vouloir qu'on écoute le générique des Chevaliers du Zodiac. Et au fond, quand on y pense, qu'est-ce qui se passerait si je laissais tourner comme ça le générique, hein, réactivant le compte SACEM de Bernard Minet qui dort depuis 1996? Ben je serais viré. Voici donc plutôt Stromae, riez sur un thème.
Moi un jour je serai un grand artiste, je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous et tellement je serai riche, j'aurai même plein d'amis. Toujours escorté par la police, je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la piscine et la villa quatre façades, trois, quatre chambres et puis un grand dressing et le coupé quatre fois quatre. Non, mon but n'est pas d'être richissime, juste le salaire d'un cadre. Et je finirai pas mes jours ici, dans cet appart minable. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, plus tard, j'aurai une femme qui m'aime et des enfants tout plein. Tu sais bien, je suis pas très matériel, je veux juste un petit terrain. Pas besoin d'un quartier résidentiel, je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais, ça me convient. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Je sais pas où je dormirai demain, eh ben ça devrait aller. Tu sais bien, je me contente d'un rien, moi tant que j'ai les papiers. Ce que je voudrais, c'est de manger à ma faim tous les jours de l'année. Et puis je me demande si enfin en grand je pourrais rêver. Riez, 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 ouais ouais riez seulement. Riez, 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 ouais ouais riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Il a clairement un goût pour la culture asiatique. Il aime notamment les films d'auteurs coréens dans lesquels les acteurs font...
Soumida.
Mais aime-t-il pour autant les mangas? C'est ce que nous allons tout de suite savoir. Bonjour Yann Marguet.
Oriwa. Yannou Marugetto desu. Shizo Seiko no owarai genin ni naritai. Yudan suru na. Gaddo Erumare.
Il est tout rouge.
Mon Dieu.
Voilà, 30 ans que je me tape des shonen, Mathieu, des mangas à destination des jeunes garçons. C'est comme des DM de Morandini, mais sous forme de petits livres. Voilà, par exemple, je viens de me présenter, d'expliquer que je voulais devenir le plus grand humoriste de tous les temps, de défier Gad Elmaleh et d'être très fâché. Voilà, monologue classique de shonen. 30 ans, autant dire que notre relation a pas mal évolué entre le temps où je trouvais ça trop classe et aujourd'hui où je suis là, mais calme-toi, Naruto, enfin, on peut pas passer une vie à se fâcher. Regarde Bigard. Et voilà, les héros de shonen, eux, ne vieillissent pas, et même quand ils vieillissent d'un coup comme ça, parce qu'on les a affublés d'un Z comme dans Dragon Ball, eh ben ils se fâchent toujours, alors on s'est éloigné, hein, on se croise, on se salue poliment de loin, mais c'est vrai que dès que j'aperçois une épée de 12 mètres, un méchant qui fait Nani ou encore, j'en sais rien, moi, le fameux mec cool qui est cool parce qu'il tire la gueule et qui porte des lunettes de soleil en intérieur, ce qui est quand même un peu l'inverse de cool, hein, je veux dire, t'es qui Philippe Manœuvre. Et bah, quand je vois ça, je me dis, waouh, bon, je préfère quand même me faire sucer, quoi. que de me lancer dans My Hero Academia. Après, j'exagère, évidemment, c'est pas que c'est ça, clair. Les mangas, hein, comme dans la règle 34 d'Internet, si une chose existe, alors il en existe une version porno. Et bah, là, c'est pareil, si une chose existe, il y a un manga dessus. Sûrement même qu'il y a un manga porno dessus, mais voilà, tout y passe, la cuisine, le jeu de go, le foot américain, l'agriculture, la boulange, les panzers, la concordance des temps, j'en sais rien. Il y a même un manga sur un mec de droite qui se retrouve prisonnier dans une radio de gauche, ça s'appelle Siriru, la carrière non parano. Je vous le conseille, c'est hyper bien. Bref, il y en a pour tous les goûts, dans tous les styles, shonen, shoujo pour les filles, seinen pour les adultes, hentai pour les puceaux, et c'est sûrement pour ça que ça cartonne autant en France. Hein. Quel chemin a parcouru quand même depuis l'époque où mon père appelait ça « tes saloperies chinoises ». Quand on pense que tout est arrivé grâce à une dèche de thunes du club d'eau. Vous vous rappelez au début, comme ils s'en branlaient les mecs, ils achetaient ça 3 balles, Nicky Larson s'était doublé nimp.
« Mammut, je l'appelle Mammut au lieu de Mammouth, car je sais que ça énerve.
» Oh là là, et le tout entre une chanson de Corbier et deux pets d'Ouar Zazat le chameau, Ségolène Royal qui chouinait, c'est trop violent, je suis conne et tout. Et aujourd'hui, t'as des interviews de profs qui sont là, oui, alors j'utilise énormément les mangas avec mes élèves. Non mais pardon, mais nous les otaku, même retraités comme moi, on savoure notre revanche. Hein, même Macron avec son passe littéraire là, qui voulait réintéresser la jeunesse à Victor Hugo, paf, 300 euros, tous dans One Piece les membres. Dans le cul manu, 100 ans de douleur. Allez. Alors, c'est super. Après, c'est pas une raison pour tomber dans le fanatisme non plus. Hein, non, parce qu'en préparant la chronique, j'ai lu un article qui faisait un classement des 10 mangas les plus importants. Et je suis tombé sur ce commentaire d'un amateur de manga que je vais lire, je crois, comme il l'entendait. Naruto doit être dans le classement! Même Eiichiro Oda l'a dit que même si One Piece est plus vendu, Naruto reste mondialement plus connu! Non mais en termes de référence, le Sharingan, les techniques de Jutsu, Naruto est plus connu! Non mais ça va pas! Non mais tu peux pas te mettre dans des états comme ça pour Naruto, Lionel! T'as une hypothèque et une pension alimentaire à payer, enfin! Non mais je le dis parce que je disais également que certains fans pourrissaient la vie des gens qui ont dit du mal de leur héros sur Internet, ce qui est très fâcheux, parce que Luffy, dans One Piece, c'est quand même un très, très gros... Mathieu Noël et ses amis sont en fâcheuse posture. Ils ne savent pas à quoi s'attendre devant le ton menaçant du tout-puissant Marguet. Est-ce une insulte ou au contraire un compliment à Luffy qu'il s'apprête à faire ? Cyril Lacarrière n'aurait-il pas mieux fait de le virer après sa chronique sur le sida ? Rien n'est moins sûr.
Merci beaucoup Yann Marguet, on voit beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface dans cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et toujours en spectacle à Paris à la Nouvelle Scène, spectacle auquel je l'annonce officiellement, j'assisterai dans quelques jours, je ne dis pas quel soir exactement pour ne pas créer non plus d'émeutes.
Mais venez à la scène libre si vous venez à la Nouvelle
Scène. Et j'ai dit à la Nouvelle Scène qui n'est pas le même théâtre, mais je crois qu'il y a un bon humoriste là-bas aussi.
Non.
La scène libre évidemment, en plus c'est à côté de chez moi. Cédric De Pape, merci d'avoir été avec nous dans Zoom Zoom Zen. C'est quoi le manga dont le grand public n'a pas encore entendu parler, mais qui va exploser dans les mois qui viennent. Bon, vous avez toujours un temps d'avance.
Si, voilà, j'en ai un, c'est très vite. Ouais.
Est-ce que vous avez un coup de cœur ?
Oui, alors actuellement, il y a une série que j'aime vraiment bien, qui, je pense, ne marche pas énormément au vu de son côté un peu méta de la chose. C'est un titre qui s'appelle Réimp, aux éditions Glénat, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui se destinait à faire du judo et à cause d'une mauvaise blessure, elle doit arrêter. Et son autre passion, c'est les mangas. Donc elle veut devenir éditrice de mangas et elle rentre chez un éditeur de mangas. Et donc le titre parle de la fabrique des mangas en général, le rapport entre les éditeurs et les mangaka, comment on vend, quel est le rapport avec les libraires et comment une série peut venir à la réimpression.
Voilà, voilà un coup de cœur assez parfait. Merci Thunder Geek. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur la chaîne YouTube Mangacast et la chaîne Twitch Le Cri du Mochi. Vous êtes aussi cofondateur, je rappelle, du podcast Cellulorama. Merci à tous les amis, Manon Mariani, Cyril Lacarrière, Quentin lui et son petit bâton magique. À la réalisation, c'était aujourd'hui Étienne Bertin. À la technique, Thomas Langlin. Je remercie également nos attachés de production Alexia Lacour et Amel Caldi, ainsi que notre stagiaire Raphaël Canzan, le seul stagiaire à qui on apporte son café et qui est capable de le renvoyer s'il n'est pas à la bonne température. Nous, on se retrouve demain sous la forme d'un truculent best-of, lundi en direct 16h. Et d'ici là, quand vous voulez, en podcast.